Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de la Conspiration des planches sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Alors, aujourd'hui, nous avons Nico et Sophie à la critique. Bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour.
Et nous irons rejoindre Nurten par téléphone, qui est notre envoyé spécial pour le Festival de Liège. Alors, mais avant ça, on ira retrouver George Orwell et son fameux 1984, repris au Varia pour le moment. Et puis, on ira aussi faire un tour dans une rue très animée, la rue du Croissant, imaginée par Philippe Blasband et portée par Mohamed Ouachen au Théâtre des Tanneurs. Et puis, on finira par une reprise de Purgatoire de Dominique Breda, la plume comique du moment. Alors voilà, on commence par un auteur particulier, George Orwell, qui est connu pour trois choses. Il est connu pour son Big Brother, évidemment, de 1984, pour La femme des animaux et sa phrase célèbre « Tout le monde est égaux, mais certains le sont plus que d'autres », et pour l'hommage à la Catalogne et son expérience de... pendant la guerre civile en Espagne du côté des anarchistes. Mais pour le moment, 1984, Nico, tu as vu ça pour nous au Théâtre Varia.
Oui, un roman écrit en 1948 par George Orwell. Alors, on connaît à peu près, même si on n'a pas lu de quoi ça parle, tu disais tout à l'heure de Big Brother, c'est en effet un roman d'anticipation qui nous plonge dans une société futuriste, une société inquiétante aussi, puisque sous perpétuelle surveillance de caméras de qui ? De Big Brother, justement. Big Brother is watching you. C'est vraiment le slogan, ou en tout cas le gimmick de ce roman qui est ici transposé sur scène par Mathias Simon. Mathias Simon qui est tombé amoureux en fait de cette œuvre en étant adolescent, en étant jeune, et il a vraiment voulu la transposer sur scène pour nous faire part encore aujourd'hui en 2011, le message assez actuel de 1984 qui, même si en 84 la société n'était pas comme George Orwell l'avait décrite, en tout cas il y a des pistes et des traces de ces réflexions qui nous posent encore question aujourd'hui. Alors, comment ça se passe? Il y avait soit deux solutions de faire ça, soit l'adapter, se détacher complètement du roman, prendre les messages et en faire quelque chose de neuf peut-être et de vraiment moderniser le texte, ou alors de s'attacher au roman et de nous le transmettre dans sa force primaire, on va dire ça. Mathias Simon a hésité un petit peu entre les deux, puisqu'il nous offre en effet un résumé, ou en tout cas une belle synthèse du roman tel qu'il a été écrit, avec les grandes tirades du roman et les réflexions qui le composent, et avec une petite mise en perspective. En effet, peut-être un petit mot sur l'histoire, raconter que c'est l'histoire en fait d'un citoyen d'Océania, le monde n'est plus qu'un ensemble de grands continents comme ça, et cette société d'Océania est vraiment à l'avance, en avance au niveau technologique et en guerre perpétuelle, ou presque en tout cas, avec ses rivaux et ses voisins, et donc c'est ce qui anime un petit peu la société. Une société, comme je le disais, sous perpétuelle surveillance, des caméras, il y en a partout, parce que le responsable du grand parti unique est Big Brother, il a ses affiches partout aussi dans la ville, elle surveille ce que font ces gens qui sont devenus quasi des automates. Ils vont au boulot, ils doivent faire ce que la société leur impose de faire. Il y a des tabous, il y a de la censure, mais c'est au nom de la liberté de chacun. C'est un peu là la contradiction que nous propose George Orwell dans ce roman et Mathias Simon donc sur scène. Et en effet, on voit donc ce Winston Smith vivre comme ça jusqu'à un moment de révolte, le franc comme ça, et il a envie de se révolter contre le système. Et il trouve, il connaîtra une histoire d'amour avec une femme qui le suivra dans cette révolte personnelle, où il est poussé par certains à un moment donné, et il se fera malheureusement rattraper par le système. Mais là, je vais m'arrêter sur l'histoire pour garder quand même un petit peu de suspense pour ceux qui n'ont pas lu le roman. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc, il y a ces descriptions, ces scènes se jouent en effet avec des dialogues qui sont directement, à mon avis, tirés du roman. Je n'ai pas lu le roman, je n'ai lu que quelques extraits. Et donc, on assiste à ça. En entrée, en fait, de spectacle, on arrive à une mise en perspective. Une dame est devant son ordinateur portable et par sa webcam se confie parce qu'elle a des inquiétudes quant à être surveillée sur son lieu de travail et aussi des inquiétudes aussi sur une menace de licenciement, etc. Et ça vraiment, ça la perturbe fortement. Ça dure 2 minutes pour avant de rentrer donc dans ce spectacle.
Est-ce qu'on retrouve l'atmosphère oppressante du livre ?
Tout à fait. D'ailleurs, par une partie de la mise en scène, une mise en scène très carrée sous tous les sens, puisque la pièce est vraiment encadrée d'un caillebotis blanc, comme ça, qui délimite le jeu et qui place un petit peu les différentes scènes, et qui joue surtout sur soit la profondeur ou soit la verticalité et la latéralité de la scène. On est toujours sur des lignes droites. Même l'éclairage, ce sont souvent des grands carrés comme ça qui emprisonnent ou en tout cas qui délimitent des espaces sur la scène. Voilà, donc c'est un peu la mise en place, c'est comme ça, avec une lumière tantôt ciblée comme ça dans la première partie ou un blanc plutôt oppressant dans la deuxième partie. Et ça, c'est, à mon avis, c'est vraiment justifié par ce qui se passe dans l'histoire. Ça, c'est vraiment un bon choix. Maintenant, moi, j'ai quand même quelques réserves sur ce spectacle parce que, il s'est attaché à ce texte et malheureusement, il aurait dû peut-être dans les dialogues se détacher un petit peu parce que parfois, on a des longues, longues tirades et aussi la dame que je vous disais là, donc de notre époque qui a son ordinateur vient parfois faire une voix off, c'est ça, et elle raconte l'histoire. Et ça, je trouvais que c'était un petit peu lourd, ça alourdissait un petit peu.
Un peu scolaire, peut-être.
Un peu scolaire, en effet. Lorsque j'étais voir ce spectacle lors de la deuxième représentation, eh bien, il y avait une classe et à l'entracte, j'ai entendu une jeune fille qui disait « Ah, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais ». Et c'est peut-être là un petit peu que je mettrais le point parce que je dis « Ben oui, mais quand on connaît le roman, on s'attend peut-être à quelque chose, une mise en perspective un peu plus claire ».
Oui, surtout qu'il était très visionnaire quand on voit notre société aujourd'hui bourrée de caméras de surveillance et où on est tous fichés.
Mais attention, il n'élude pas justement ces thématiques-là, mais en les gardant donc originellement fidèles à l'œuvre. Mais justement, le travail sur le texte alors, parce que parfois on a des longs monologues scandés par des passages du roman, ça je trouvais, parce que le spectacle dure quand même 2h20 sans entracte.
Moi, je me demandais une chose. Tu dis que, donc évidemment, il y a des caméras. Est-ce qu'il y a un travail de l'image vidéo ?
Oui, en effet, il y a un grand écran derrière qui intervient de temps en temps et deux écrans qui sont utilisés parfois comme objet aussi, avec une superposition de webcam, avec un jeu d'image. Et alors aussi, la préparation est pas mal aussi du public quand on entre dans la grande salle du Varia. Il y a cette espèce de lumière. Comment on appelle ça, une suiveuse, je ne sais plus comment on dit ça. Une poursuite, voilà. Ouais. Merci Sophie. Voilà, donc, et ça balaye comme ça le public.
Voilà, alors on va quitter George Orwell pour aller un petit peu plus près de chez nous.
T'as donné les renseignements pratiques ?
Dis-nous, jusque quand
alors,
ça se joue ?
Alors, ça se joue jusqu'au 29 janvier, donc au Grand Varia. Et vous retrouverez tous les renseignements sur www.varia.be et les réservations au 02 640 82 58.
D'accord, merci. Alors maintenant, on retourne du côté de Rue du Croissant. Sophie, tu as vu cette nouvelle création de Philippe Blasband, un seul en scène, mais très animé pourtant.
Oui, un seul en scène par Mohamed Ouachen. Et voilà, on se retrouve dans la Rue du Croissant. C'est une rue bruxelloise tout à fait banale, dans laquelle un incident a eu lieu. On peut peut-être juste dire qu'au moins, il y a eu un cri. Voilà. Et les habitants vont finalement raconter ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont perçu, et surtout ce qu'ils faisaient au moment où ils ont perçu ce cri. Donc on se retrouve un peu Moi, j'ai perçu ça comme ça. On se retrouve un peu peut-être en tant que la police qui fait son enquête de routine ou qui va voir, qui va frapper à chaque porte et demander un peu ce que les gens ont entendu. Ou peut-être dans la peau d'un curieux qui va entrer dans la vie des gens. Parce que, voilà, donc plus que des infos sur l'incident lui-même, on va vraiment recueillir des témoignages de vie, des mini-tranches de vie. Et les gens ont l'air de vouloir se confier et on apprend ce qu'ils faisaient et donc un peu qui ils sont par l'intermédiaire de leur témoignage. Et donc tous ces personnages, vraiment une belle palette, on va de la petite fille marocaine qui veut devenir une star en passant par la grand-mère qui veut aller aider ou le chat, enfin vraiment toutes sortes de personnages. Ils sont tous interprétés évidemment par Mohamed Ouachen. Et
il faut savoir aussi que Philippe Blasband, quand il a écrit ce texte, on lui a demandé d'écrire 100 personnages.
Oui,
donc
ça.
Dans le livre d'origine, il y a 100 personnages. Évidemment, ça faisait quand même un peu beaucoup pour un seul homme. Donc, ils ont un petit peu coupé. Mais au final, bon, j'ai quand même l'impression qu'il y en a...
Il y en avait une bonne soixantaine, je pense avoir lu. Oui, c'est ça. Et donc, tous ces personnages sont interprétés par le comédien. Et je trouve qu'il s'en sort quand même vraiment très bien parce que ce n'est pas évident de passer d'un rôle à l'autre. D'autant plus que ce sont des brefs passages. Donc, parfois, un personnage ne reste que quelques dizaines de secondes sur scène, ce qui est parfois assez frustrant aussi parce qu'on a envie d'en apprendre plus sur cette personne. Et voilà, donc il s'en sort très bien. Il y a eu parfois, moi j'ai trouvé une petite faiblesse, surtout au niveau des accents, parce que voilà, le comédien est d'origine marocaine, je pense. Donc il a déjà son accent à la base, et c'est vrai que parfois sur un petit accent américain, bon, on se dit tiens, ça c'est pas vraiment ça, mais ça c'est vraiment une mini remarque parce que vraiment il s'en sort très bien, et alors il entre très bien dans le rôle, dans chacun des rôles. Parce que il s'accroche à une mimique, à une gestuelle, à un accent, et donc on est directement mis en situation. Moi, j'ai trouvé ça aussi très très visuel finalement.
Oui, et surtout les transitions sont très fluides. Donc en effet, il s'arrête au milieu d'une phrase, et puis tout à coup, il passe à un autre personnage de manière très douce comme ça. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que il n'appuie pas trop les accents justement. C'est vrai que parfois, c'est pas tout à fait fidèle, mais en même temps, c'est pas caricatural du coup.
Non, non, non. Mais la transition se fait aussi par le texte. C'est ça qui était, comme tu dis, très fluide, parce que un personnage finalement termine la phrase du personnage précédent, mais sur un tout autre sujet. Donc la transition est toujours très bien faite. Et voilà. Donc finalement, c'est vraiment ça le thème de la pièce. Ce sont des individus qui se dévoilent. Et donc, je pense que c'est un choix de l'auteur d'avoir décidé de couper l'information. Donc le personnage raconte un peu tout ce qu'il faisait. Il était au téléphone ou il parlait de ci ou ça avec telle ou telle personne. Quand il a entendu, et puis là, ça se coupe. Donc il y a une petite frustration et un petit suspense qui est créé comme ça. Et finalement, on est quelque part entre l'intérêt pour vraiment découvrir ce qui s'est passé et mettre cet intérêt de côté pour en apprendre davantage sur toutes ces tranches de vie qu'on a devant nous, quoi.
Avec une résolution un petit peu surprenante aussi à la fin de ce fameux cri. On va quand même savoir ce qui s'est vraiment passé.
Oui, on l'apprendra
tout à la fin. Mais de manière quand même inattendue. Moi, je trouve que dans l'ensemble, c'est un seul en scène qui se laisse vraiment très agréablement regarder.
Tout à fait.
Et la rue du Croissant existe vraiment.
Oui,
c'est
à
une
forêt.
Rue de forêt où habite, j'imagine, Philippe Blasband, l'auteur.
C'est ça. Mais voilà, donc moi, je trouvais que vraiment, comme tu dis, par rapport à la fin, c'est un beau malentendu qui donne lieu à des tranches de vie anodines et tout à fait représentatives dans leur ensemble, en tout cas, d'une rue de Bruxelles.
Et ça se joue jusque quand?
Alors, ça se joue jusqu'au 5 février au Tanneur. Donc, les infos sur letanneur.be ou au 02 502 37 43 et ensuite du 16 au 27 février au KVS.
Très bien, et on écoute maintenant Thomas & Co.
La constellation.
Et voilà, on s'est écouté donc Thomas & Co. C'est un projet d'Olivier Thomas, artiste en résidence à la Balsamine. Et il propose pendant deux week-ends, vu que c'est la fin de sa résidence, deux week-ends en coopérative à la Balsamine. Ce sera les 3, 4 et 5 février pour le premier et les 11 et 12 février pour le deuxième avec le grand orchestre donc, et Thomas & Co. notamment pour ses performances musicales et un petit peu théâtre. Aussi sans doute, hein, Catherine.
Imagine. Après N coopérative, on va donc aller coopérer avec Nurten qui est avec nous par téléphone.
Bonjour Catherine, bonjour tout le monde.
Alors Nurten, tu as couvert pour nous l'ouverture du festival que le monde entier nous envie, paraît-il, après le Kunstfestival. Tu es allée voir le Festival de Liège. Dis-nous tout.
Oui, à Liège, le monde entier envie Liège. Effectivement, donc c'est le Festival de Liège qui a lieu tous les 2 ans. Ça fait fou, plus de 40 ans maintenant. Donc les anciens se souviennent, c'était un lieu de modernité. En tout cas, on ramène ce principe d'Avignon. Je dis toujours, moi, c'est un Avignon wallon. Comme le Kunsten est un Avignon bruxellois, donc du théâtre international à voir dans le mode d'un festival. Alors c'est dirigé depuis 10 ans par Jean-Louis Collinet qui est directeur du National, et Jean-Louis Collinet qui s'intéresse à un théâtre et politique et poétique, c'est-à-dire un théâtre qui parle au présent, et ça c'est bien le slogan de ce festival. Donc il est choisi pour leurs propos et pour leur mise en forme théâtrale. Ça s'est ouvert vendredi dernier au Manège à Liège, avec un spectacle très poétique, très slam, sur un spectacle américain de Lyric from Lockdown, je crois, et c'est Brian quelque chose. Brian Bain, qui expliquait dans une forme slam, avec une dame, une jeune fille DJ sur scène et un trio de musiciens, 3 jours de galère qui font basculer une vie. Il s'est fait choper dans la rue et on l'a cru coupable et on l'a mis en tôle. Et pendant 3 jours, il essaye de se démener et il donne tout ça en chant et en poésie. Et c'était quelque chose de très fort. Et on sent, il s'en est sorti juste parce que ce Black, contrairement aux apparences, on va dire, était avocat lui-même. Et le procureur qui est censé le juger a fait Harvard avec lui, donc comme un coup de théâtre, on va dire. Et apparemment, toute cette histoire est vraie et ce type a surtout une écriture poétique. Bon voilà, c'était une soirée. Ça vaut le coup d'aller voir sur le site de ce gars parce que c'est vraiment une vraie histoire mise en théâtre. Et il y a vraiment un témoignage américain et musical et poétique sur un problème américain. On voyait dernièrement un gars innocenté dans une histoire du genre. Voilà. Maintenant, le reste, il y a surtout un focus sur Fall Critter, hein, ce que le National a importé, qui fait tout un travail d'écriture et de mise en scène sur le monde capitaliste ou le monde aujourd'hui qui échappe au simple humain que nous sommes.
Mais c'est lui qui avait écrit Unterreis.
Voilà, ben justement, sa matière ici s'était inspirée d'un documentaire sur les consultants. Il en avait fait une pièce, Unterreis, qu'on avait énormément aimé. Et ici, il vient avec trois écrits. L'un qu'il aura mis en scène et qu'il a présenté à Avignon, avec Stanislas Lordet. Un autre qui a été repris par Fabrice Murgia, Dieu est un DJ, qui est à voir cette semaine au National. Et alors, une création vraiment à découvrir, Play Loud, avec des jeunes d'ici, à voir au National.
Alors, la singularité aussi de ce festival cette année, c'est la participation de jeunes artistes qui ont surtout travaillé à partir du plateau. C'est le cas de Fabrice Murgia et de Colin Streuf.
Oui, justement, alors il y a dans ce festival un autre festival, on va dire. Enfin, il y a un label qui s'appelle Nouvelle Vague et c'est un zoom sur ces jeunes émergents. Et c'est un label qui va se distiller dans la saison. Si vous voyez l'écusson, on va dire Nouvelle Vague, ça démontre que voilà, ce sont des jeunes dans leur premier, deuxième projet et qui font un travail. Et ce sera entre l'Ancre à Charleroi, la Maison culturelle de Tournai, et le National. Et ici, dans la vingtaine de projets qu'on présente au Festival de Liège, il y en a 6-7 de nouvelles vagues. Donc c'est vraiment ce vent frais de la jeunesse. Il y a toute une génération de jeunes qui déboulent avec leur écriture, avec leur époque, de son, d'image, avec l'écriture de plateau, comme tu le disais Catherine, ils créent sur scène. Et donc on commence à les suivre depuis quelques années. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les Belges, évidemment, mais il y a des Français. Par exemple, juste ce week-end, si vous voulez débouler à Liège, il y a moyen de voir deux spectacles très intéressants. Il y a en première partie, à 19h, Sandrine de la compagnie Pôle Nord, une compagnie française qui fait du bruit. Et c'est sur le monde du travail avec quelque chose de très simple, paraît-il, 2 chaises et une personne. On m'a dit que c'était vraiment, vraiment bien. Et à 21h, justement, il y a ce fameux Murgia, hein, qui avait marqué les esprits avec Le Chagrin des Ocres. Et ici, il fait Chronique d'une ville épuisée. C'est une pièce sans, on va dire, sans parole. C'est une femme seule dans un intérieur et qui la communication se fait par chat et par SMS. Et donc Murgia, on commence à le savoir, il fait tout un travail sur la surcommunication dans un monde virtuel. C'est le cas notamment dans Dieu est un DJ qu'on voit cette semaine au National.
D'accord, alors Nico, tu vas peut-être nous donner les détails.
Ben oui, donc Dieu est un DJ, c'est à partir du 27 janvier, mais peut-être que Nurten peut nous dire ce qu'elle en a pensé, puisqu'elle l'a vu. Hein.
Ben moi, je l'ai vu à la première à l'antre. Voilà, alors c'est Nurdia aime le cinéma, il se dirige de plus en plus là, donc tôt ou tard, je crois qu'il va arrêter la mise en scène, il le dit à demi-mot, et donc on le sent vraiment dans cette pièce. Ce qu'il faut savoir, c'est une commande, donc c'est pas son écriture, Le Chagrin des Ocres, il l'avait écrit, Chronique d'une ville épuisée, il l'a écrit. Ici, on lui a donné un texte, Dieu est un DJ, un des premiers textes célèbres de Falk Richter. On sait qu'en coulisses, il y a peut-être eu des tensions pour réadapter le texte ou pas, indépendamment de l'auteur qui était OK, mais avec les maisons d'édition. Donc c'est un peu galéré lui-même pour le texte. Hein. Voilà. Et alors, on sent dans le spectacle que Murgia lutte avec le texte. Il a deux excellents comédiens. C'est Vincent Hennebic et Laura Sepoul. Alors sur scène, on est, on va dire, un petit décor de cinéma. Il y a une carcasse de bagnole, il y a une gonzesse dessus avec une robe verte tout en glamour. Il y a lui qui est dans un fauteuil de DJ, de réalisateur. Il y a deux grands écrans derrière. Et voilà, on est dans une espèce de nuit ou de trip hein, où le gars...
Il a d'ailleurs lui-même refait le voyage de Falk Richter aux États-Unis pour en ramener les images.
Oui, c'est parce qu'il va sur la route 626 et il se prend un trip sur la beauté des paysages et le monde qui part en couille. On nous vend, voilà, il a fait la route, il aurait pu prendre d'autres images, ça aurait tout aussi bien donné. On ne sent pas que c'est lui qui a été prendre ce texte. En fait, la pièce, on nous la vend comme un couple qui délire entre le virtuel et le réel, qui n'arrête pas de se filmer, dont la femme veut un enfant. Je crois qu'elle a un enfant et tout le long, elle pose la question, je le garde ou je l'avorte. Et tout ça, elle n'est pas mis en relief. On est tellement pris, d'ailleurs tout le monde est braqué dans l'écran parce que tous les comédiens qui jouent devant sont filmés, donc c'est le principe de je vous filme en direct, on vous voit dessus, on entend énormément l'homme et pas la femme, donc le désir d'enfant ou elle a un enfant ou pas de la femme, on le sent vraiment en périphérie. Voilà, on est dans les délires du gars et un trip et une mauvaise décision.
C'est plus sur la forme alors.
Mais sur la forme aussi, c'est... Moi, je me suis dit, en sortant, c'était la première, je me suis dit, il a pris en otage le théâtre pour faire ses envies de cinéma. Donc, voilà, c'est visuellement, oui, c'est beau, mais ben, les gens aussi autour, on est tous coachés à l'écran, parce que l'image des comédiens, elle est diffusée à l'écran. Donc, finalement, on regarde l'écran et pas le jeu. Et puis, à ce côté, style un peu américain, vous imaginez une scène à la Lynch où on met une femme avec une robe en paillettes et une perruque assez glamour, enfin, elle est allongée sur une carcasse, voilà, ça fait une image glamour.
Donc, au rock. Un trip lynchien, en tout cas, tu m'as donné envie d'aller faire un tour pour le voir.
Un peu pauvre dans le propos, mais voilà, c'est un artiste à suivre et voilà ce qu'on pouvait dire de Liège. D'autres spectacles viendront à Bruxelles, mais ça, on en reparlera le 24 de février, mais ça vaut la peine de faire une descente, comme on dit, à Liège.
Merci Nurten.
Ciao, ciao.
À bientôt. Et on rappelle donc que Dieu est un DJ sera au Théâtre National jusqu'au 11 février.
Voilà, et on va finir avec un purgatoire qui n'est pas l'enfer qu'on croit, au contraire, puisqu'on y rit.
C'est le paradis
beaucoup,
du rire. Même.
C'est le paradis du rire. C'est une pièce de Dominique Breda qui est très prolifique en ce moment. Il a écrit Hostile, il a écrit Le Groupe, il a écrit Emma qui continue de tourner. Et son purgatoire est repris pour le moment au TTO, au Théâtre de la Toison d'Or, qui en fait a rouvert, heureusement, après l'incendie qu'il avait frappé pendant les fêtes de Noël. Nico, tu l'avais vu son temps ?
Oui, on a presque envie de dire que. Enfin, Dominique Breda a une scène qu'il mérite, surtout pour ce spectacle qui est sans doute un de ses meilleurs. J'en ai vu deux, trois. Et Purgatoire, eh bien, se reprend la forme habituelle, un ensemble de scénettes qui inspecte eh bien, les vices de l'humanité un petit peu avant d'entrer au paradis ou à l'enfer ou à ce qu'il y a derrière, en tout cas on ne le sait pas, et c'est un ensemble de scénettes avec vraiment des caractères vraiment bien typés, bien sentis, et des dialogues alors très très bien interprétés
et des situations absurdes. On a une réunion d'antipathiques anonymes qui n'ont pas du tout envie de guérir.
La scène d'ouverture aussi avec ces bébés savants, on a l'impression d'être dans une maternité avec tous ces bébés alignés. Il y en a deux qui s'avancent dans une discussion philosophique, métaphysique quasi, pour vraiment parler de la vie qu'ils n'ont pas encore vécue, évidemment.
Oui, c'est vraiment une pièce pour se dérider, on le conseille.
Et intelligente, et très bien interprétée.
Oui, c'est d'ailleurs Dominique Breda qui a mis en scène ce texte. Voilà, c'est sur ce purgatoire infernal qu'on terminera cette édition de La Conspiration des Planches. À la semaine prochaine.
Et je rappelle que le podcast de La Conspiration des Planches sera disponible dès jeudi midi sur le site de Radio Radio Campus, www.radiocampusbruxelles.org. Belle semaine.
À bientôt.
Bonne planche.
Constelación.